Cette
Priez
conférence
en ce
va
moment de
maintenant être
l'éveil,
enregistrée.
l'assemblée vertueuse, vous les sublimes jusqu'à la purification et la perfection, accordez-nous protection. Par la bénéfique activité de générosité et des autres vertus, pour le bien de ceux qui errent, l'éveil puissions-nous réaliser. Sages éveillés, enseignement de l'éveil et assemblée vertueuse, vous les sublimes jusqu'à la purification et la perfection, accordez-nous protection. Par la bénéfique activité de générosité et des autres vertus, pour le bien de ceux qui errent, l'éveil puissions-nous réaliser. Sages éveillés, enseignants de l'éveil et assemblée vertueuse, vous les sublimes jusqu'à la purification et la perfection, accordez-nous protection. Par la bénéfique activité de générosité et des autres vertus, pour le bien de ceux qui errent, l'éveil puissions-nous réaliser. Puissent tous les êtres la félicité et les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et des causes de la souffrance être libres, de la parfaite félicité libre de toute souffrance ne jamais être séparés, et dans la grande équanimité, libre des distinctions duelles d'attachement et d'aversion, demeurer. Puissent tous les êtres la félicité et les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et des causes de la souffrance être libres, de la parfaite félicité libre de toute souffrance ne jamais être séparés, et dans la grande équanimité, libre des distinctions duelles d'attachement et d'aversion, demeurer. Puissent tous les êtres la félicité et les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et des causes de la souffrance être libres, de la parfaite félicité libre de toute souffrance ne jamais être séparée, et dans la grande équanimité libre des distinctions duelles d'attachement et d'aversion demeurer. Donc ce matin, j'ai essayé d'expliquer un peu les trois caractéristiques ou ce qu'on appelle aussi les trois natures, Trisvabhava en sanskrit, comme étant donc la nature d'imputation ou l'imaginaire, la nature dépendante et la nature actualisée, magnifiée, parfaite, la perfection, et qui correspond à l'éveil. En disant que les deux premières étaient des facettes de l'esprit confus sous l'emprise de l'ignorance et de la structure dualiste. Et qu'en prenant conscience de ces réalités et de la distorsion qui existait du fait de l'ignorance, on pouvait arriver progressivement à se défaire des causes et conditions, des habitudes, etc., des quatre voiles, qui occulte la troisième nature qui est celle du plein éveil, de la connaissance de l'esprit en lui-même, tel qu'il est. Donc, le premier, le monde imaginaire, c'est celui dans lequel on se trouve quasiment tout le temps et qui est, en quelque sorte, on pourrait le résumer en disant que ce sont les choses qui apparaissent, telles qu'elles nous apparaissent. Le deuxième, la codépendance, va déjà un petit peu plus loin puisqu'il pose la question de comment ces choses apparaissent-elles. Donc, quand on commence à réfléchir sur la deuxième caractéristique, quelque part, on a déjà bien sûr pris conscience de la souffrance qui naît du conditionnement du monde imaginaire, ce qui équivaut à la première des quatre nobles vérités enseignées par le Bouddha. Et la nature dépendante, c'est se poser la question de l'origine de cette situation. C'est important de se poser la question de l'origine parce que si l'on ne sait pas comment tout cela s'est manifesté, comment en quelque sorte le samsara se déploie, on ne sait pas s'il est possible d'y mettre un terme. On ne sait pas si c'est un état de fait qui ne connaîtra aucune transformation et qui sera pour toujours comme ça. Donc, le chemin de libération, lorsque l'on ne sait pas comment les choses se sont manifestées est impossible. Donc, la deuxième des quatre nouvelles vérités nous dit, voilà d'où vient la souffrance. Fondamentalement de l'ignorance, puis après l'enchaînement, dualité, klesha, action, etc. Et ça ouvre donc une possibilité qui est donc la troisième des quatre nobles vérités, qui est de se dire, il est possible d'inverser le cours des choses, il est possible de changer. Il y a une transformation, un affranchissement possible. Et donc ça nous conduit naturellement à la quatrième des quatre nobles vérités, de se dire, quelle est la méthodologie? Et là, on pourra commencer vraiment le cheminement vers l'éveil. On ne peut pas commencer à la quatrième sans avoir vraiment bien cerné les trois premières. Donc, on a vu que la première chose à faire, c'est cesser de se voiler la face, que dans le contexte de l'existence conditionnée, il n'y a pas de bonheur authentique et durable. Il n'y a pas même, ne serait-ce que de paix authentique et durable. Tout est soumis à l'interaction, tout est soumis aux conditions qui viennent des actions, le karma, etc. Tout est dans un flot constant de changement parce que fondamentalement, aucun phénomène n'a d'existence profonde, essentielle et permanente. Donc, c'est, comme on pourrait dire, c'est la malédiction qui porte en soi la bénédiction. Il n'y a pas de bonheur possible parce que tout change et que projetant notre désir de bonheur sur des objets en mouvement, ces cibles mouvantes et émouvantes, le bonheur disparaît à peine qu'on le touche. Si on ne l'atteint pas, eh bien, on est dans la frustration. Si on l'atteint, on est dans la perte et la nostalgie. Et de pouvoir regarder ça directement, sans faux semblant et sans se sentir agressé. Et se sentir agressé, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on lit les enseignements du Bouddha et qu'il parle de la première des quatre nobles vérités, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On se bouche les oreilles et on fait la 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 la. On ne veut pas entendre parce que c'est trop dérangeant. Ça remet trop de choses en question. Parce qu'on a peur d'être d'accord avec ça. Parce que étant d'accord avec ça, l'aspect de, comment dire, d'angoisse, de stress peut disparaître, mais en même temps, puisqu'ils sont attachés, il va entraîner avec lui, dans sa disparition, nos rêves, nos espoirs, nos fantasmes. Et donc, ça, on ne peut pas. On ne peut pas accepter. Parce que faire disparaître la souffrance, tout le monde est d'accord. Mais au prix de faire disparaître mes rêves, mes désirs et mes aspirations, ça, non. Je me souviens d'une blague, une bande dessinée, un petit dessin. On voit un monsieur qui a, on voit les bulles avec les pensées, on voit beaucoup de femmes voluptueuses. C'est un dessin à la Dubout, hein, avec donc des femmes très voluptueuses partout. En fait, donc c'est ses fantasmes érotiques. Et il va chez un psychanalyste parce que voilà, il en peut plus. Et donc le psychanalyste lui dit, êtes-vous bien sûr? Parce que je peux les faire disparaître, mais je ne pourrai jamais les faire revenir. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il est difficile d'accepter la première des quatre nobles vérités, parce que on a quelque chose à perdre. Nous semble-t-il. On est dans le monde de l'imputation, le monde de l'imaginaire. Hein? On a décidé que telle ou telle chose est la source du bonheur et que l'on doit se l'approprier. Un sentiment, un lieu, une personne. Et donc, on met tout sur cela. Sauf que l'on n'a pas bien visé. Toute recherche d'un bonheur extérieur est vouée à l'échec, puisqu'il va se projeter sur des cibles mouvantes. Quand bien même on l'a un instant, il nous file entre les doigts. Et donc en fait, difficile d'y accéder, fragile dans l'obtention, rapidement perdu, il ne reste qu'une nostalgie immense. Cette nostalgie immense est intolérable et on veut donc s'échapper de cette nostalgie en retrouvant la sensation qu'on avait à peine entrevue, mais on l'a amplifiée, magnifiée, et on part à nouveau à la recherche du temps perdu, on part à la recherche de ses espoirs, etc., etc. Et je crois que ce qui cimente l'attachement à l'existence conditionnée, c'est le désir. Donc, on est tous d'accord, si le samsara n'était que souffrance, on voudrait s'en échapper. Ce serait relativement simple. Mais le problème, c'est qu'entre deux grosses tranches de pain, apparemment, il y a un petit bout de jambon. Et on mange le sandwich et on s'étouffe et on crache, etc. Et en fait, quand on arrive au milieu, en fait, c'était une feuille de papier rose que l'on avait pensé être du jambon. Et donc, on va chercher un autre sandwich. C'est la même chose. Un autre sandwich, un autre sandwich, un autre sandwich. Et parfois, on étouffe et on meurt. Et dès qu'on revient, eh ben, on va chercher un autre sandwich. C'est là où est vraiment le piège, je dirais presque machiavélique de l'existence conditionnée, si c'était une entité et qu'elle avait une intention. C'est de suggérer un désir pour mieux nous emprisonner. Et donc, le renoncement est difficile pour cette raison, essentiellement. On veut bien laisser partir tous les problèmes, mais n'emportez pas mes rêves avec. Parce qu'on ne veut pas regarder non plus les rêves de trop près. Parce que si l'on regarde les choses de très près, on voit les fissures, on voit le maquillage. Alors on a besoin de lunettes roses pour masquer les fissures dans l'objet de notre désir. On est obligé de, tout ça c'est très inconscient, hein, on est obligé de masquer la réalité. Quand on fantasme les choses, tout est merveilleux. C'est léger, c'est facile, c'est beau. Le seul problème avec le fantasme, c'est qu'on ne l'a pas. Alors c'est un peu frustrant, mais bon, on ferme les yeux et on rêve à nouveau. Mais on ne l'a pas. On ferme les yeux à nouveau et on rêve un peu. Et puis on trouve quelque chose qui ressemble à mon fantasme. Une sorte de ersatz, un semblant. Et donc on va projeter sur ce semblant qui est très proche de mon fantasme, on va projeter le fantasme et essayer de faire que les deux, en quelque sorte, deviennent un. Mais ça ne colle pas. Ça glisse, ça tombe. Parce que la réalité est toujours en deçà du fantasme. Mais on va se voiler la face. On va prétendre que ça va bien jusqu'au moment où ça devient insoutenable, jusqu'au moment où vraiment le maquillage tombe et on commence à voir un visage qui n'est pas conforme à notre fantasme. Et on voit que on s'est fait avoir. Pas par l'objet, pas par la personne, le sentiment, la sensation, mais par nous-mêmes. Mais comme on ne veut pas voir que l'on se trompe soi-même, eh bien, on va accuser l'autre. Et on va rejeter l'autre avec colère, avec dépit, et on va se mettre en chasse pour à nouveau un objet qui ressemble à notre fantasme. C'est ça la mécanique de l'existence conditionnée. Et donc, la réflexion sur le monde imaginaire, sur le monde qui est imputation, c'est une réflexion sur le fait que l'on projette un imaginaire du désir sur des objets, objets au sens objet-sujet, des êtres, des situations, des biens, des possessions, des sentiments, qui n'ont rien à voir. Alors, ça colle plus ou moins maladroitement. Le temps où ça colle à peu près, on prétend que je vais bien, tout va bien. Et puis quand ça commence à se décoller et que c'est incollable et qu'on commence à voir ce qu'il y avait en dessous au travers de l'étiquette, eh bien, il est temps de partir et d'aller chercher ailleurs. Donc, le propre de la renonciation, c'est de s'apercevoir de cette entourloupe. Accepter de regarder que l'on s'enferme dans notre propre construction mentale, dans nos représentations mentales, dans nos fantasmes, et que l'on paye un très lourd prix pour avoir le droit de continuer à rêver, de faire un rêve qui va être toxique, pour lequel on va payer un très lourd prix, mais on peut continuer à rêver. À partir du moment où on commence à voir ça de plus en plus, le premier exercice, ça va être de démaquiller la réalité. C'est-à-dire ôter les couleurs qu'on a projetées sur le monde. Trungpa Rinpoche, dans un texte qui s'appelle Dharma Art, je crois que c'est Dharma et créativité en français, quelque chose comme ça. Il dit en fait, nous colorons notre monde. Nous, c'est pour ça que je dis souvent, nous sommes des make-up artists, nous sommes des, comment on appelle ça, des esthéticiens ou des esthéticiennes. Hein. On placarde nos couleurs sur le monde. Par exemple, récemment, le bleu et le jaune. Vivant depuis très longtemps à Clermont-Ferrand, le bleu et le jaune, c'est l'ASM, le rugby. Donc on voit le bleu et le jaune partout. Venant du monastère, le bleu et le jaune, c'est le drapeau du Karmapa. On se dit, ah bah Clermont-Ferrand, c'est une ville spirituelle. On est à Marseille, on voit Om partout sur les murs. C'est vraiment une ville spirituelle, Marseille. Om, Om. Hein? Donc en fait, moi quand je vois les murs à Marseille, je vois Om, je ne vois pas OM. Si je suis à Clermont, je vois l'ASM dans le bleu et jaune. Moi je vais là-bas, je dis tiens, il y a le drapeau du Karmapa partout. Sauf que maintenant c'est devenu le drapeau de l'Ukraine. Tiens d'ailleurs, c'est partout dans le temple, bleu et jaune. Donc c'est ça, projeter ses couleurs sur le monde. Le bleu et le jaune n'ont rien à voir ni avec l'Ukraine, ni avec l'ASM, ni le home n'a rien à voir avec l'Olympique marseillais. Mais on projette, on associe nos couleurs avec l'objet que nos sens rencontrent. Et donc, du coup, on ne voit plus l'objet. C'est le... Comment dire, souvent la souffrance d'une personne qui est belle. Ça, après, définissons beauté, ça c'est un autre. Mais disons que dans l'acception générale du monde, cet homme, cette femme est belle. Et en fait, il ou elle deviennent simplement un objet de projection et de désir de la beauté. Et très souvent, moi j'ai eu des discussions avec des personnes qui étaient vraiment, on va dire, qui correspondait au canon de l'esthétique du temps, et qui disait c'est très lourd à porter. Parce que, en fait, on est totalement invisible. On est totalement invisible. Il dit, bon, mais d'un autre côté, pleure pas, parce que s'il y a une table qui reste au resto, c'est pour toi. Le gars qui est à l'entrée et qui va dire, ah, ça va pas le faire à moi, vas-y, rentre, chérie, c'est bon. Donc, bon, faut modérer un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que on devient presque invisible parce qu'on est recouvert du maquillage d'autrui. Donc, la relation donc au monde imaginaire, première chose, c'est démaquiller. Regarder objectivement les choses. Autant que peut se faire. Parce que, bien sûr, on ne connaît les objets que le sujet perçoit que par assimilation et définition qui appartiennent au sujet connaissant. Donc, il y a toujours une part de subjectivité dans la perception. Mais au moins faire attention à ne pas projeter trop fortement nos couleurs sur le monde. Donc c'est un travail, je dirais, de vigilance et d'attention. Et j'aime vraiment faire ça, par exemple, moi, dans des lieux de grande fréquentation. Un grand centre commercial, la terrasse des cafés. Je me prends un petit crème, je m'assois. Je regarde passer les gens. Et je regarde mon esprit. Je fais ce que les maîtres de Yogacara nous invitent à faire. Ten Yonsu Jorwa, retourner la base. C'est-à-dire, ne regardez plus l'objet sur lequel vous projetez vos couleurs, mais regardez l'esprit qui projette ces couleurs. D'accord? Donc ça, c'est un changement radical de perspective. Et donc, je suis assis à la terrasse du café, je vois la personne passer, et en 2 minutes, j'ai fait un scanner, et je peux vous livrer mon commentaire sur la personne. Qui elle est, ce qu'elle fait, d'où elle vient, qu'est-ce qu'il porte, vêtements, machin, mauvaises chaussures, sac Vuitton, faux. Donc, faux sac Vuitton, donc prétention, donc insécurité, malaise, je me sens moche, donc j'ai un faux sac Vuitton parce que le sac Vuitton va me replacer dans je sais pas quoi. Et donc je fais un scanner un peu, ma femme me dit, t'aurais dû être flic. Parce que je regarde ça comme ça, et maintenant j'ai un autre exercice qui est, je regarde en quoi ces éléments d'appréciation et de jugement sont en fait des reflets de ma propre psyché, ma propre personnalité. D'accord? Donc je fais abstraction en quelque sorte de la personne et de ce qu'elle, j'allais dire, de ce qu'elle, en temps normal, elle dégage. Je retourne la base et je regarde ce que je projette sur cette personne. D'accord? Et je vois en quoi je suis en train de maquiller mon monde. Et donc, c'est dangereux parce que je crée sans cesse une narration à propos des gens, ou à propos de la situation ou quoi que ce soit. Et cela donne naissance à des préjugés. Des préjugés. J'ai pas rencontré la personne, je ne la connais absolument pas, mais il me semble que je connais tout d'elle. Et donc, j'ai déjà un jugement. J'ai déjà un jugement et, par exemple, si la personne est très belle, je vais faire comme Johnny Depp. Je vais me marier avec elle jusqu'au jour où je m'aperçois que la beauté n'était qu'extérieure et qu'à l'intérieur, c'est extrêmement compliqué avec beaucoup de traumas et de névroses, etc. Et je vais mettre 2 ans et 10 millions de dollars à me sortir de ce piège dans lequel je me suis projeté. Vous vous souvenez en France quand Johnny Depp a quitté notre Vanessa? Mais comment est-ce qu'on peut quitter Vanessa? Elle a tout bon, cette femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle est créative, etc., etc. En gros, bon, personne n'est parfait. Mais bon, c'est pour mon explication. Me casse pas mon effet, Caroline. Elle a tout bon Et ce gars, il s'est fait emballer par son désir, par Machinette, qui va le faire danser encore et encore. Alors, il a dû avoir des bons moments, mais il a payé cher, le bougre. Hein? Voilà. Donc, les préjugés, qui peuvent être négatifs, c'est-à-dire que l'on va déprécier la personne alors même qu'on ne la connaît pas, ou on va surévaluer la personne alors qu'on ne la connaît pas. Donc, mon exercice, moi, à la terrasse des cafés maintenant, longtemps, c'était de voir passer les filles. Et maintenant, c'est de voir ce que je projette. Alors, il faut faire très attention parce que quand on est un peu vieux comme moi, qu'on est à la terrasse d'un café, qu'on voit passer les jeunes filles et qu'on regarde, elles ne sont pas du tout au courant que je suis en train de faire un travail spirituel et méditatif sur la voie vers l'éveil. Elles pensent, ce boomer, il est vraiment perve. Il est lourd parce qu'elles font la même chose et c'est de bonne guerre. Si moi je les maquille, elles me maquillent aussi. D'accord? Donc, ça c'est un exercice intéressant parce que quelque part je me gronde un peu. Je me dis, mais qu'est-ce que tu te racontes là? Qu'est-ce que tu te racontes? Pourquoi est-ce que tu. En quoi tu as besoin de projeter ça? Parce que en moi, il y a le désir d'avoir un contact plaisant. Ne serait-ce même que visuel. Un contact plaisant. Donc, je maquille l'objet pour qu'il corresponde à ma représentation du désir, ou plutôt, en l'occurrence, ma représentation du plaisant. Et donc, je regarde et je vois cet esprit et je vois sa mécanique. D'accord? Donc, ça, c'est le début de la libération de notre esprit. On va extirper notre esprit du monde imaginaire en retournant la base et en regardant combien nous projetons nos couleurs sur le monde. Trungpa Rinpoche dit tout d'abord on projette nos couleurs sur le monde, puis dans un effort conscient et délibéré on cesse de projeter nos couleurs sur le monde. Alors le monde nous apprend beaucoup de choses à propos de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Le miroir nous renvoie énormément d'informations sur nous-mêmes. Et donc, ce retour nous permet d'être plus objectifs dans notre, comment dire, relation, nos sujets, notre relation à l'objet. Et le sujet n'est plus un esthéticien ou un troubadour. Un troubadour, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Hein? Maquillage égale éjade. Quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, ben voilà, en gros, mon métier, c'est ça. Ma vie, c'est ça. Je suis, si vous voulez, ma carte de visite, c'est maquillage égale éjade. Je raconte des histoires et je maquille le monde. Mais j'essaye de faire une reconversion professionnelle, de retourner la base et d'être démaquilleur et informateur, de recevoir objectivement les messages pour pouvoir mieux me connaître et transformer ce qui a besoin d'être transformé. On est tout à fait dans le mode relatif, là. On n'est pas en train d'essayer de trouver quelle est l'essence de l'esprit. La troisième caractéristique ou la troisième nature qui est celle de la nature parfaite ou parachevée, qui est celle de l'esprit qui se connaît en lui-même. On n'est pas encore là du tout. On est dans la phase, je dirais, de désintoxication. Et on est dans la première phase. Alors, c'est difficile, comme toute désintoxication. On a mal un peu partout, on tremble, on a mal à la tête, on a mal partout. Mais il faut passer au travers de ça pour commencer à avoir une relation saine à la manifestation, une relation saine à nous-mêmes et entre nous et la manifestation, pour que l'on puisse ensuite passer dans cette deuxième caractéristique aux deuxièmes natures, qui est la nature dépendante, Shen Wang en tibétain, qui est sous l'emprise Wang de l'autre, Shen. Parce que cette deuxième phase, ou cette deuxième nature plutôt, c'est de comprendre comment tout ça s'est arrivé. Comment est-ce que tout ça s'est arrivé? Pour commencer à se poser la question simple, comment est-ce que cela est arrivé, il faut qu'on ait décidé que cela ne doit plus arriver. Et pour avoir décidé que cela ne doit plus arriver, il faut qu'on ait vu que ce type d'attitude inconsciente provoque des catastrophes et de la souffrance. Si l'on n'a pas vu cela, et bien on reste dans l'auto-illusion. D'où l'idée de la nature imaginaire, ou de la nature qui est pure imputation. C'est-à-dire que l'on applique des projections mentales, des représentations mentales, du maquillage sur les objets que l'on rencontre. Et donc, on ne connaît rien du monde. On ne connaît rien du monde. C'est ça qui est... Je ne sais plus si c'était cet après-midi ou hier, je disais parfois, je regarde ma femme et je me dis, mais qui c'est? Ah bon, je ne suis pas sénile, je sais bien que c'est ma femme, mais qui c'est vraiment? Parce que déjà, je dis ma femme, donc déjà c'est mon maquillage. D'accord? Alors parfois j'essaye de dire, je suis son époux. Ça commence à devenir très compliqué. Hein? On dit parfois, c'est en anglais, on dit c'est ma meilleure moitié. Et alors parfois, ce que je veux dire, c'est elle qui m'appelle. J'essaie de dire, c'est mon meilleur deux tiers. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? C'est très compliqué. Mais je me pose vraiment la question, parce que j'ai tellement vécu avec des gens que je n'ai jamais connus. D'accord? J'ai cohabité, existé avec vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Très rarement, je les ai vus. Très rarement, je les ai vus. Parce qu'en fait, j'ai surtout cohabité avec mes projections, avec mes imputations, avec mon maquillage. J'ai vécu dans ma boîte de maquillage. Et j'essaye de sortir de ma boîte de maquillage. J'essaye de voir l'autre. Alors c'est quelque chose qui est dangereux parce que lorsqu'on essaye de voir l'autre, comme le dit le troisième karmapa, regardant l'objet, il n'y a pas d'objet, on voit la vacuité de l'esprit. Donc si je regarde vraiment ma femme, je risque d'être célibataire bientôt. Parce que effectivement, regardant l'objet, il n'y a pas d'objet. On voit l'esprit, on voit la vacuité de l'esprit. Mais finalement, c'est peut-être ça le but d'une cohabitation. C'est de voir que l'objet est une apparence et qu'il a donc une présence, on pourrait dire une saveur, une fragrance, mais qu'essentiellement, il est dépourvu de toute existence substantielle, permanente et autonome. Et voyant l'autre comme cela, eh bien, et retournant la base, on regarde celui qui connaît et ne le cherchant pas, on le voit, le cherchant, on ne le trouve pas. Si je ne cherche pas plus loin que ça, qui est cette femme que j'appelle incidemment ma femme? Eh bien, je la vois. Mais en fait, je ne la vois pas elle, je vois mes imputations, mes projections. D'accord? Et par contre, si j'essaye de la voir, je ne la trouve plus. Vous suivez un peu là? Je ne la trouve plus. Parce que plus je la regarde, plus je vois ce que je projette. Donc, je me vois davantage. Mais plus je la regarde, plus je la cherche, moins je la trouve. Et ne la trouvant pas, ce que je trouve, c'est la vacuité. Alors, la vacuité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait synonyme de production interdépendante. Il y a une femme parce qu'il y a un époux, un mari. On ne peut pas avoir de femme sans mari. On ne peut pas avoir de mari sans femme. Bon, on peut faire des variances, hein. On peut avoir un mari avec un mari, une femme avec une femme, enfin bref, toutes les permutations possibles. Mais peu importe, on ne peut pas avoir ceci sans cela. Cherchant le cela, il nous échappe. Et nous échappant, on voit qu'il n'y a pas de cela. Et lorsqu'il n'y a pas de cela, eh bien, on a trouvé que le ceci avait disparu. C'est-à-dire que la structure dualiste s'est effacée. Donc, partant de l'imputation, le monde imaginaire, ayant le courage de regarder que nos fantasmes nous conduisent à la souffrance, et par conséquent aussi l'ensemble des êtres qui nous sont proches, qui sont autour de nous, on se défait ou on se libère progressivement des habitudes de la projection et du maquillage, pour enfin pouvoir regarder vraiment ce qui est, et cherchant ce qui est, on voit qu'il n'est pas. Mais, et là je vais prendre le texte du troisième Karmapa, c'est un peu plus subtil que ça. Parce que lorsque l'on regarde l'objet, alors que jusque-là on avait affirmé cet objet existe, alors que rien ne peut le définir. Affirmer c'est, alors que rien ne peut le définir. Lorsque vous regardez un objet, en fait, ce que vous apercevez de plus en plus, c'est la multiplicité des paramètres qui favorise l'expérience de cet objet. Et en fait, on voit la nature hétérogène de cet objet en constant mouvement. D'accord? Vous regardez une apparence, mais si vous regardez au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau atomique, au niveau subatomique, etc., l'objet disparaît complètement. Hein? Je parlais d'un ami cet après-midi qui est peintre et il me dit, Sonny, il faut que je te dise quelque chose. Quand je peins un arbre, je suis forcément attiré vers la branche. Et donc, je regarde la branche. Mais quand je regarde la branche, je vois les branches plus petites. Et quand je vois les branches plus petites, donc je suis forcément attiré vers les feuilles. Et quand je regarde les feuilles, je vois la feuille. Et quand je vois la feuille, je vois les nuances de vert. Et quand je regarde les nuances de vert, je vois les nuances à l'intérieur des nuances. Je vois le petit trait argenté, la petite nuance pourpre, la tache de blanc qui est la lumière, etc. Et ma feuille a disparu. D'accord? Parce qu'en fait, l'arbre est une représentation mentale. Vous n'avez jamais vu un arbre. Vous avez vu une représentation mentale de l'arbre. Quand vous dites « je regarde la maison », en fait, quand vous êtes face à la maison, vous avez, du fait même ne serait-ce que de la vision, vous avez une partie très, comment dire, ajustée, puis plus vous vous éloignez du centre, plus ça devient flou. D'accord? Donc, vous regardez la fenêtre du haut, la fenêtre du bas, la fenêtre du milieu, la porte, le perron, les escaliers, les géraniums, et tout ça, ça s'appelle la maison. Et vous dites, parce qu'on ne va pas non plus dire, j'ai regardé la porte, la fenêtre, la deuxième fenêtre, la troisième fenêtre, etc., etc. J'ai regardé la maison. On raccourcit, mais c'est une représentation mentale. Donc tout le monde dit, ah ouais, je la connais ta maison, je l'ai vue. En fait, c'est un grossier mensonge. Tu n'as jamais vu ma maison. Parce qu'il n'y a pas de maison. Parce que qu'est-ce que la maison? C'est la fenêtre d'en haut, la fenêtre de droite, la fenêtre de gauche? Non. En fait, quand tu regardes ce que tu appelles maison, il y a beaucoup plus d'éléments de non-maison que d'éléments de maison dans la maison. Quand tu regardes le soi, il y a plus d'éléments de non-soi que de soi. Donc le soi disparaît alors qu'on veut le regarder. Si on ne le regarde pas, il est là. Si on ne le recherche pas, si on ne veut pas aller plus loin que l'apparence, on a une représentation mentale, et les neurosciences démontrent cela, c'est que quand on regarde un arbre, par exemple, on ne voit pas toutes les nuances de vert. Parce que le cerveau, qui doit un peu, comment dire, économiser son glucose, il fait des raccourcis. Donc, il te dit, il te sort une carte, une représentation mentale, voilà, ça c'est vert. Ah oui, c'est vert, oui, c'est ça. Et c'est la conscience mentale qui fait du vert. Donc, en fait, l'objet extérieur n'est pas vu puisqu'il y a un raccourci conceptuel. Donc, en fait, on conceptualise, on représente le monde. C'est l'idée du yogacara, que l'on appelle aussi simplement l'esprit. C'est une autre façon de simplement la conscience. Il a dit, ce que nous voyons, ce que nous connaissons, c'est une représentation mentale. Elle donne l'impression d'une apparence, de solidité, de couleur, de forme, etc. On peut y attribuer un sentiment de préférence ou de dégoût, etc. Mais tout ça sont des représentations mentales. Et si vous commencez à y regarder de plus près, c'est un peu comme dans le film Matrix. Si vous commencez à regarder les choses, vous mettez la main à travers le miroir et vous commencez à lire les lignes de code derrière. Tout ça disparaît, quoi. Et aussi longtemps que l'on est intéressé à maintenir l'illusion, à voir ou à garder, s'attacher à la réalité des choses, la réalité des objets, on ne peut pas voir leur essence vide. Et donc, on ne peut pas comprendre comment ils sont manifestés. Donc, on ne peut pas comprendre comment on peut s'en libérer et quel est le chemin de libération. Donc, on regarde, plus on regarde, moins on trouve. Moins on trouve, plus on voit le tissu de la vacuité. Mais plus on regarde, la vacuité, ce n'est pas simplement un espace inerte. Parce que la tentation, lorsqu'on ne trouve pas, c'est de dire « ce n'est pas ». Je cherche ma femme, je ne la trouve pas, donc je n'ai pas de femme. C'est le raccourci conceptuel. Karmapa nous dit, affirmer c'est, alors que rien ne peut le définir. Lorsqu'on recherche dans une fleur la fleuritude, on ne la trouve pas. Quand on cherche dans la maison la maisonitude, la maisonitude, on ne la trouve pas. Quand on recherche dans la femme la famitude, on ne la trouve pas. Hein? Parce que ce ne sont que des représentations mentales. Donc, il y a la tentation du vide. Affirmer c'est, alors que rien ne peut le définir. Affirmer, donc l'inverse, ce n'est pas, alors que rien ne peut l'entraver. Hein? La manifestation s'élève au gré des causes et des conditions. Ça nous renvoie au deuxième point, qui est l'interdépendance. La manifestation est inobstruée. Guénon Rinpoché disait, cet esprit, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il n'a pas d'œil, il voit tout. Il n'a pas d'oreille, il entend tout. Il n'a pas de bouche, il parle tout le temps. Vous voulez qu'il reste, il s'en va. Vous voulez qu'il s'en aille, il reste. Vous voulez le diviser, vous n'y arrivez pas. Vous voulez le regrouper, vous n'y arrivez pas. Donc l'esprit, par définition, est rebelle à toute manipulation. Donc rien n'entrave l'activité de l'esprit. D'ailleurs, dans vos méditations, en tant que débutant, quand vous avez commencé la méditation, en pensant que La méditation, une bonne méditation, c'est un encéphalogramme plat. Hein? Eh bien, vous apercevez que ce n'est pas possible. Parce que vous avez commis l'erreur du débutant qui pense que la méditation, c'est d'arrêter les pensées, d'arrêter la créativité de l'esprit. Et que ça, ce serait une bonne méditation. C'est un peu comme le fou qui vient avec son fer à repasser pour essayer d'enlever les rides des vagues sur la mer. D'accord? La première expérience que l'on fait, c'est que rien n'entrave l'activité de l'esprit. Donc, comme rien n'entrave l'activité de l'esprit, vous ne pouvez pas dire ce n'est pas. Puisqu'il y a toutes ces choses qui vont exploser, les sens, les pensées, les manifestations, etc., etc., l'exubérance de la manifestation, rien ne l'arrête jamais. Et donc, l'erreur du débutant, c'est de se dire la méditation, c'est sans penser, la bonne méditation, un bon méditant, c'est un méditant mort, hein, ça bouge plus. On s'aperçoit que, en fait, la méditation, c'est le sujet, c'est-à-dire l'esprit connaissant, l'esprit percevant, qui regarde les objets dans le jeu incessant que rien ne peut arrêter. Hein? Entravé ici, en fait, c'est gakpa en tibétain. Gakpa, ça veut dire vraiment bloqué. Hein? Le sujet regarde ce jeu des pensées et commence à comprendre qu'il ne pourra jamais les entraver ou les arrêter. Et donc, c'est peine perdue. Donc, le sujet fait un pas en arrière et regarde le jeu des pensées, libre de l'ingérence. Je veux contrôler le mouvement des pensées. Celle-ci doit aller à droite, celle-ci doit aller à gauche. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. On est une espèce de fou furieux qui essaye de contrôler la créativité naturelle de l'esprit. Et du coup, on ressent une agitation extrême, un stress extrême, qui finalement ne vient pas des pensées directement, de leur profusion ou de leur absence. Ça ne vient pas de ça. Ça vient du désir d'ingérence et de contrôle dans le sujet observant, le méditant, l'observateur, la conscience de l'esprit. Et donc, tout, on pourrait dire, l'exercice du calme mental conduit à pouvoir faire un pas en arrière pour que l'aveuglement, la souffrance, l'agitation dans l'esprit du sujet se pacifie parce qu'il n'y a plus, on ne nourrit plus ce désir de contrôle et ce désir de l'ingérence. Kenon Rinpoche, dans un de ses poèmes, dit sans être fasciné par le calme de l'esprit, sans être dérangé par le mouvement de la créativité de l'esprit, laisse cet esprit reposer naturellement. Relax. Chill out. Fais un pas en arrière. Et là, on commence à avoir pointé des expériences intéressantes. La première, c'est un sens de, comment dire, d'ouverture confortable. Un sentiment d'aise qui s'installe dans l'esprit. Et ce n'est pas que l'esprit était douleur avant, mais du fait de ces espèces de fous furieux qui voulaient tout contrôler, cet esprit s'était fixé et en quelque sorte avait fait une sorte de méga crampe. Et là, en relâchant ce désir de contrôle et d'ingérence, vous savez, c'est comme l'histoire du fou qui se tape sur la tête avec un marteau. Et puis il est là, ah, ça fait mal, ah, ça fait mal. Et son copain dit, arrête. Alors le fou, il arrête, puis il dit, ah, bah merci, tu avais raison, ça va mieux maintenant. Hein? Donc en fait, l'aise que l'on trouve lorsque l'on a relâché l'obsession de l'ingérence n'est pas quelque chose qui se crée. Ce C'est le bruit, la fureur qui arrête. Le bruit et la fureur associés à l'ingérence. D'un seul coup, il y a un espace. Et la deuxième qualité, c'est ce que métaphoriquement, on appelle la luminosité. Ça n'a rien à voir avec la lumière. C'est métaphoriquement, c'est-à-dire que la lumière, c'est que tout devient clair. C'est ça profondément ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, retournez la base, l'esprit se voit. Il se voit paisible parce qu'il arrête de se torturer dans ce désir obsessionnel de l'ingérence. Il se voit limpide et clair parce que la poussière qui était en suspension du fait de cette obsession de l'ingérence est retombée. Et donc il se voit paisible et clair. Il se reconnaît comme étant paisible et clair. Et il s'installe là-dedans. Et il voit qu'il n'a pas besoin de prendre part au bavardage incessant. Parfois, on est avec quelqu'un qui parle beaucoup, comme moi. Et on a envie de participer à la conversation. Et on parle, et ça s'échauffe, et ci, et là, etc. Puis au bout d'un moment, tout le monde est fatigué. On fait un pas en arrière, puis on écoute. Ça fait du vent. Hein? Comme on dit de nos jours, là, ceux qui sont toujours là, brasser du vent, c'est le moment. Il fait chaud. Brasser du vent. Ça nous fera de l'air. Donc on regarde. On peut voir évidemment le désir d'intervenir, de dire « Ah mais non, je ne suis pas d'accord. » On relâche. On n'est plus pris par le constant flot d'espèce de discours conceptuel. Le maquillage, ce qu'on projette en permanence. « Ah, il est nécessaire. Attends, je te rajoute un peu de bleu. Attends, je te rajoute un peu de rouge. » On lâche tout ça. Et donc, il y a un silence. Mais ce n'est pas un silence qui est une absence de bruit. C'est un silence dans la profusion de bruit. Peut-être que vous avez fait cette expérience. En tout cas, quand on est jeune, on fait ça. Vous allez au bistrot pour faire vos devoirs. Non? C'est un endroit qui est très bruyant, mais quelque part, le bruit vous permet d'être concentré. Moi, j'ai fait beaucoup de traductions avec le casque sur les oreilles. Donc, je traduisais du tibétain pendant des heures et des heures et des heures. J'avais comme le DJ une oreille dedans, une oreille dehors. Donc, je n'avais pas les deux oreilles prises. Donc, je pouvais continuer à faire ma traduction, mais la musique me forçait à me concentrer. Le bruit, en quelque sorte, favorisait ma présence. Et donc, lorsque l'esprit est posé, établi dans le calme, de la non-ingérence, tout est très clair et limpide parce qu'il n'y a plus d'agitation, donc il n'y a plus de poussière. Les bruits autour ne sont plus un problème. Le bruit de la perceuse pendant la méditation, n'est qu'un son comme la cloche ou le vent, parce qu'il n'est plus associé à perceuse. Quand même, ils font chier à l'heure de méditation de venir percer des trucs en dessous de la fenêtre. Tout ça, c'est la projection, c'est le maquillage, et c'est ça qui nous tue, c'est pas la perceuse. Hein? Cette phrase qui dit, ce n'est pas la balle qui vous tue, c'est le trou. D'accord? C'est pas la balle qui vous tue, c'est le trou. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de trou. Une balle qui traverse l'espace, elle ne tue personne. Parce qu'il y a quelqu'un. Donc, s'il y a une résistance, eh bien, ce truc devient une satanée perceuse avec quelqu'un qui ferait mieux venir s'asseoir avec nous plutôt que faire du bruit. Hein? Bon, je sais, personne n'a pensé ça ici. Personne. Mais ça pourrait se faire. Donc, voilà ce qu'on découvre quand on décide simplement de faire un pas en arrière, de se désengluer de ce monde imaginaire, de ce monde d'imputation, d'arrêter de jeter du maquillage, de voir les choses telles qu'elles sont. Et quand on les voit telles qu'elles sont, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'elles sont le jeu de la production en interdépendance. Elles sont le jeu en le sens le déploiement. Parce que, j'ai une personne qui m'a dit, mais comment peux-tu utiliser le mot « jeu » pour définir cet océan de souffrance du samsara? Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Le déploiement, ça va mieux? Donc maintenant, je fais attention. Le déploiement de la créativité de l'esprit que l'on va vouloir contrôler, c'est le contrôle qui crée la tension, la souffrance. C'est pas la profusion ou même la carence de manifestation. Ça a rien à voir. Rien à voir. Donc, lorsqu'on peut commencer à faire ce travail de dissociation, se décoller un peu, arrêter de nourrir cette habitude de projeter, maquiller, c'est-à-dire contrôler, définir, contrôler, évaluer, apprécier, repousser, promouvoir. Trop de travail. Je ne peux plus faire ça. Je suis épuisé. En plus, si ça conduisait à quelque chose, je ne dis pas, mais ça conduit à rien. Ça conduit à une complexification de la situation. Et encore plus de maquillage, et encore plus de contrôle, et encore plus d'incertitude. Donc, voilà en quoi une bonne compréhension de ce qu'est la nature imaginaire peut nourrir notre expérience du calme mental, pour commencer. D'accord? Il y a un lien entre la philosophie, Yogacara, et la mise en application sur votre kusa. Lorsqu'on commence à regarder les choses en face, on va dire un peu plus directement, eh bien, on commence à voir la mécanique de la manifestation. Hein? Vous savez, lorsque vous regardez ces animations faites sur ordinateur, hein, vous regardez un dessin animé, maintenant, c'est plus des petits trucs dessinés par Monsieur Walt Disney, hein, c'est 40 000 Coréens et qui travaillent ensemble avec deux Français qui font la peinture. Et donc, il y a une animation. Mais cette image ressemble vraiment à des humains. Hein. Parfois, il y a certaines animations ou certains jeux sur ordinateur. Ils sont vraiment des humains avec des expressions humaines, etc. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est ce qu'en bon français, on appelle le skin. C'est-à-dire ce qui recouvre en dessous une structure comme un bonhomme en fil de fer qui est une ligne de code, hein, qui crée un squelette sur lequel on vient coller une peau. Et donc, quand vous voyez une animation, ce que vous voyez, c'est la peau et elle bouge parce qu'en dessous, il y a le squelette avec les lignes de code. Finalement, c'est 1-0 répété à l'infini avec toutes les permutations possibles. Et donc, dans le monde imaginaire, on va être pris par « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et on est pris par l'histoire, on va pleurer, on va rire, etc. Maintenant, quand on pratique une analyse sérieuse du monde imaginaire, ce que l'on va faire, c'est que l'on va enlever la peau pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. On arrête de projeter, déjà, sa passion sur l'objet. Attends, c'est un CGI, tu vois, c'est une image de synthèse, machin. Calme-toi, cette fille n'existe pas. Ce gars n'existe pas. Hein? Calme-toi, bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord. C'est une skin, c'est un peau, une peau. Et puis, on enlève, et puis, après, comme par exemple Matrix, on peut commencer à voir la structure. Les lignes verticales, transversales, etc. Et puis si on va plus loin, on commence à voir les lignes de code avec les numéros 1, 0, machin, etc. Et donc on commence à voir toutes les conditions qui viennent ensemble à un moment donné pour donner l'apparence, l'illusion d'une apparence que nous, en tant que junkie de la sensation, nous allons saisir. Mais si on se décroche, si on regarde au travers, on voit la ligne de code, enfin dans un premier temps, on voit le squelette, puis plus loin on voit la ligne de code, on voit donc la deuxième nature qui est la nature dépendante. On voit que toute cette manifestation, en fait, n'existe qu'en interdépendance, qu'aucun des points n'existe en lui-même, qu'il est lui-même produit par d'autres points qui sont produits par d'autres points, etc., etc. Et donc, voir cette production en interdépendance, c'est en fait connaître la vacuité. Parce que vacuité ne veut pas dire rien. Vacuité veut dire dépourvu d'essence, de substance, svabhava. C'est le grand mot dans le yogacara, svabhava. Quand on a étudié un petit peu le yogacara, ce qui était marrant à voir, c'est qu'au terme de l'étude, le seul truc qui restait dans l'esprit de tout le monde, c'était svabhava. Alors, tu as du svabhava? Non, moi, je n'ai pas de svabhava. Tu as trouvé ton svabhava? Non, je n'ai pas trouvé mon svabhava. Donc, on commence à voir que les choses sont dépourvues, vides, dépourvues d'une structure essentielle, permanente. Elles n'ont pas de svabhava. Et voyant cela, toute l'illusion du monde imaginaire s'effondre. Tout ça s'effondre. Et c'est la libération. C'est la libération de la dualité, c'est la libération de l'opposition sujet-objet, c'est la libération des saisies et fixations des deux soi comme étant Svabhava. Donc voilà la progression entre le monde imaginaire et progressivement la nature interdépendante ou de production interdépendante. Et je vais arrêter ce soir parce que c'est plus la peine de remplir, les coupes sont pleines. Alors, est-ce que vous avez des questions? À quelle heure on va se coucher, c'est ça? Non?
Une petite question.
Bien sûr, Anne.
Tu as parlé d'essence. Essence. Et parfois, on parle de l'essence de l'esprit et qui est la vacuité. Et toi, tu as dit, il n'y a plus d'essence. Alors, j'ai eu un moment d'hésitation sur comment tu utilises ce terme.
D'accord. OK. Alors, le premier point, oui, essence, généralement, se réfère au fait que la vacuité est l'essence ou le cœur, essence dans le sens de cœur de toutes les choses. Mo, on dit en tibétain, le cœur, l'essence de toutes les choses. Ensuite, on va parler aussi de la nature de l'esprit qui va être en paire avec la vacuité, indissociable. Par exemple, la compassion. La nature, c'est la couleur, c'est le rayonnement, c'est le dynamisme, c'est on dit sarwa rangsal, rangdang, la luminosité, etc. Tous ces mots en tibétain. Donc, ça va être compassion vacuité, ça va être félicité vacuité, ça va être conscience vacuité, etc., etc. D'accord? Donc là, on parlera d'essence et de nature pour parler des deux facettes de l'esprit. D'accord? Lorsque l'on regarde tous les phénomènes apparaissent et donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas parce que rien ne peut les entraver ou les bloquer, les interdire. Et donc leur nature est créativité, rayonnement, etc. Mais leur essence est vide parce que lorsqu'on les cherche, on ne les trouve pas. D'accord? Donc tous les phénomènes sont l'union de la créativité ou bien de la luminosité de l'esprit vide. Maintenant, quand je dis ils sont dépourvus d'essence, probablement un lapsus de ma part, je voulais dire de substance.
Voilà, ok.
D'accord? De svabhava.
Ouais.
Je vais utiliser svabhava maintenant, comme ça je ne m'embrouillerai pas avec les mots français.
Et svabhava, c'est en rapport avec la substance. Non,
c'est voilà, svabhava, c'est affirmer l'existence de quelque chose en disant qu'il est doté d'une substantialité permanente, c'est-à-dire donc qui est immuable, qui est autonome, c'est-à-dire qui n'est produit par rien, qui en quelque sorte naît de lui-même. D'ailleurs, même pas né, parce qu'après la discussion, si quelque chose existe en lui-même, il ne peut pas être né de lui-même, parce que s'il est en mesure de naître de lui-même, c'est qu'il est déjà, pourquoi est-ce qu'il aurait à naître? Ça va être un peu tard pour ça.
Okay.
Donc, ouais, le svabhava, c'est ça, c'est affirmer en ce qui concerne, par exemple, Atman, le soi de l'individu, et Dharma, le soi des phénomènes. Hein, ici, c'est pas Dharma n'est pas enseignement, mais le soi des phénomènes, d'affirmer que ces deux sont des entités, si tu veux. On peut peut-être aussi utiliser ce mot en français. Sont des entités, en ce sens qu'elles sont autonomes, permanents et quelque part substantielles. Substantielles, c'est-à-dire qu'elles ont des caractéristiques qui les définissent, qui fait que tout le monde, elles ne sont pas subjectives, elles sont objectives. Tout le monde les perçoit de la même façon tout le temps. Et ça, cette affirmation, c'est un peu ridicule parce que on peut dire ce que je te disais hier, est-ce que ton chien aime le baroque? Il aime juste la guitare, wah wah.
Merci. Oui.
Marie-France, je vois ton micro ouvert.
Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les notions de non-soi et de vacuité? Est-ce que ça désigne des choses différentes ou pas?
Alors, ce que l'on appelle non-soi, anatman en sanskrit, c'est en fait l'absence de svabhava dans le sujet. Et donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il est dépourvu, c'est-à-dire vide, dépourvu de svabhava, ce que l'on vient de voir là avec Anne, le soi n'est pas une entité, parce que le soi n'existe ou n'est perçu, enfin existe entre guillemets, ne peut se manifester que par rapport au dharma, aux objets, aux phénomènes. Je suis parce que tu es. Hein, c'est aux États-Unis, je dis à mes amis, il y a un très très grand enseignement sur la non-dualité et sur l'absence de svabhava des deux soi dans les chansons country. Alors ils me disent, mais c'est quoi? I am nothing without you. Je ne suis rien sans toi. Ça, c'est de la production en interdépendance. Je ne suis rien sans toi. S'il n'y a pas de je, il n'y a pas de toi. S'il n'y a pas de toi, il n'y a pas de je. Il ne peut y avoir de je qu'en regard du toi. Il ne peut y avoir de toi qu'en regard du je. D'accord? Donc, si le je dépend du toi, le je n'existe pas en tant qu'entité autonome et permanente. Le je est fluctuant puisqu'il est le contrepoint de l'autre.
Oui. Et donc la notion de vacuité, c'est une autre approche, en fait, de la même chose, quoi.
Oui, mais en fait, on peut utiliser la vacuité du soi ou le non-soi. En anglais, on dit aussi absence d'identité, identitylessness, l'absence d'identité. Identité dans le sens d'entité. Le soi, les deux soi, le soi de l'individu, le soi des phénomènes, Atma et Dharma, ils n'ont pas d'entité propre. C'est-à-dire que le je n'existe pas sans toi.
Mais quand on parle de la vacuité, on ne parle pas de ça, si ?
Là, c'est la même chose. Quand on parle de vacuité, c'est qu'on parle de absence de svabhava.
Ah oui, donc c'est synonyme, en fait.
Voilà.
D'accord.
Comme production interdépendante est synonyme de vacuité.
Oui. Bon, merci.
Oui, hier, tu as dit, nous participons à la nature d'éveil. Mmh.
Nous participons de la nature d'éveil.
De la nature d'éveil.
C'est pas pareil.
D'accord.
D'accord. Mais, non, c'est vraiment différent.
Oui, non, est-ce que tu peux justement, je ne comprends pas bien.
D'accord. Alors, bon, c'est une formule en français. Nous participons de, c'est-à-dire que nous sommes dotés de, nous sommes doués de, nous sommes, en possession de. Voilà, c'est une autre façon de dire en français, nous participons de la nature d'éveil. Pourquoi j'utilise ce mot un petit peu tarabiscoté, enfin c'est du français un peu pédant peut-être, mais quand je suis en France, je suis tellement heureux d'utiliser mon français, tous les mots que je connais, ceux que je me rappelle, dont je me rappelle, je ne peux pas résister. Nous participons de, pour moi, ça permet d'évacuer l'idée du sujet-objet lorsque l'on parle de la nature de Bouddha. Sinon, si je dis, nous sommes dotés de la nature de Bouddha, moi, j'ai, action, la nature de Bouddha, objet. Tandis que nous participons de, quelque part, pour moi, c'est moins clivant. Mais c'est juste mon idée, hein, mais c'est ce que j'essaye de faire passer en utilisant cette formulation, nous participons de la nature d'éveil. Bien. Une autre question de dernière minute, non? Et après, 1, 2, vendu. Allons, dédions le mérite à tous ces êtres qui n'attendent que ça. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception en cet état, puissons-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus. Des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ceux qui errent, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup.
Merci, Lama. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée à vous toutes, à vous tous. On se retrouve 7h pour les méditants ici. Puis, 9h30 pour tout le monde. Et rappelez-vous, la session du soir, on va faire vraiment questions-réponses. Donc, si vous avez des choses, parce qu'ici, entre deux, pendant les repas, on parle beaucoup. On échange. Et puis après, bon, les après-midi aussi, on a des discussions plus particulières. Mais en particulier pour vous, là, dans le cyberespace, demain, ce sera aussi une opportunité de poser vos questions. Et si elles sont un peu intimes, vous fermez votre caméra, comme ça, personne ne sait qui c'est. D'accord. Ok, ciao. Bonsoir. À demain.
À demain. Bye bye.
Bonne soirée. Oui.